Alors on change, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir sur Calade pour notre nouvelle émission de Alors on change, le rendez-vous mensuel d'Alternatiba Villefranche consacré au climat et au développement d'alternatives locales.
100.9
Calade.
Sobriété énergétique, plan de sobriété, cette thématique envahit notre quotidien et les débats politiques depuis peu de temps, certes. On peut même voir en ce moment une campagne de l'ADEME pour nous inciter à ne pas acheter. Alors en juin 2022, le gouvernement annonçait le plan de sobriété énergétique. En février 2023, c'était l'acte 2 du plan de sobriété qui était annoncé. Tout ça a pour objectif d'inscrire la baisse de notre consommation d'énergie dans la durée. Les débats s'accélèrent et pour cause, le dérèglement climatique, lui, ne cesse de faire de plus en plus de dégâts matériels et humains. Et la crise ukrainienne, évidemment, nous met face à nos dépendances énergétiques. L'inflation, elle, précipite de plus en plus de Français et d'êtres humains dans une véritable précarité énergétique. On ne compte plus, en fait, cet hiver, les gens qui ne se chauffent pas pour faire des économies, alors qu'ils crevaient de chaud cet été dans des passoires thermiques. Mais alors, la sobriété, est-ce que c'est ce que nous raconte le gouvernement, à savoir un ensemble de contraintes mêlées à des mesures d'urgence comme le chèque énergie? Ou est-ce qu'il y a une voie de la sobriété qui serait désirable, vers laquelle on pourrait se diriger avec enthousiasme? Avec nous ce soir, pour dialoguer sur le thème de l'excellent livre de Mansour Khan, « La voie de la sobriété », Michel Bernard, journaliste et cofondateur, membre du comité de rédaction de la revue Silence. Bonsoir, monsieur Bernard. Silence.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Bernard. Silence, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un mensuel dont le siège se situe à la Croix-Rousse, à Lyon, qui existe depuis un peu plus de 30 ans et qui traite d'écologie, d'alternatives, de non-violence. Michel Bernard a traduit l'ouvrage de Mansour Khan en français. Mansour Khan, c'est un écologiste indien qui a étudié aux États-Unis. Michel Bernard dit qu'il a traduit ce livre pour s'occuper en 2020 pendant le premier confinement. Nous accueillerons également en studio Philippe Serre, directeur général des services de la communauté des communes Saône-Beaujolais et de Belleville-en-Beaujolais, et directeur de la transition écologique de ces deux collectivités. Il nous apportera quant à lui donc son expérience sur la fourniture d'électricité verte sur la communauté de communes, expérience qui inclut une démarche de sobriété énergétique avec le service BOWAT. Bonsoir Philippe, bonsoir Monsieur Serre.
Bonsoir à tous.
Et puis dans cette émission, nous aurons évidemment la célèbre chronique Calade verte de Bernard et on finira comme d'habitude avec un petit point d'actualité associative et climat en Calade. Allez, c'est parti avec tout de suite un petit montage tout en sobriété de JC.
Le jour du dépassement a légèrement reculé en 2023. Et oui, ce mardi 2 août, l'humanité a consommé toutes les ressources que la planète était capable de fournir en un an.
Sur une planète finie, les approvisionnements, tout ce qui est physique, ne peuvent pas être indéfiniment croissants, ni même indéfiniment constants.
En un mois, le jet privé de Bernard Arnault a pollué autant qu'un Français en 17 ans.
La plupart des consommations d'énergie, enfin une grande partie, ce sont des gaspillages. Et maintenant, il faut revenir en arrière de façon tout à fait urgente.
La France, c'est le pays des Lumières. La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation.
Et imaginez, plus d'électricité, plus de carburant, plus de... Et c'est l'effondrement du système. C'est-à-dire que nous avons construit un système qui est censé être puissant, alors qu'il est très faible. Quand nous nous sommes installés ici, nous avons choisi la sobriété heureuse. Pourquoi ? Parce qu'elle est libératrice.
Je ne crois pas au modèle Amish.
Une sobriété efficace est une sobriété concertée. La sobriété doit venir de l'expertise du terrain. La sobriété, c'est un pilier de notre planification écologique. La sobriété, enfin, c'est du pouvoir d'achat durable. La sobriété n'a jamais été une question aussi sérieuse. La sobriété énergétique, ça n'est pas produire moins et faire le choix de la décroissance.
Dire qu'il y a une contradiction entre sobriété et décroissance, je ne sais pas où on va chercher ça.
La croissance économique, c'est spécifique. C'est l'augmentation du produit intérieur brut. C'est une calculatrice avec une seule touche, un gros plus.
La sobriété, ça veut juste dire tout ce qu'on peut faire pour produire mieux, éviter, produire encore davantage, mais en dépensant moins, c'est ça la bonne sobriété.
Aujourd'hui, toute la société est organisée pour qu'on soit l'inverse de ça.
La sobriété, c'est quand on accepte délibérément de changer la façon dont on consomme. Si on vous oblige à le faire, ça s'appelle de la pauvreté.
En fait, c'est changement de civilisation qu'implique le mot sobriété. Je suis pas sûr que notre cher président ait compris que ça allait jusque-là.
Le plan de sobriété présenté aujourd'hui nous donne une feuille de route crédible pour atteindre notre cible.
Ce qui est très important pour nos Français, c'est que on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
Aïe, 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 ça va mal finir cette affaire si on freine pas et vite. On pourrait bien aller droit dans le mur. Alors, Michel Bernard, dans son livre « La voie de la sobriété », Mansour Khan nous pose la question suivante. Et si on acceptait enfin qu'il ne peut y avoir de croissance infinie ? La croissance infinie, ce mythe de nos gouvernements quand ils nous parlent de croissance économique et qu'ils n'ont comme seule mesure de progrès l'augmentation du PIB. Pour réfuter cette fausse idée de la croissance perpétuelle, Mansour Khan nous propose l'analogie suivante. Un coach sportif demande à son meilleur sprinteur d'améliorer ses performances de 10% chaque semaine. Mais semaine après semaine, forcément, cette progression devient de plus en plus compliquée pour le sprinteur et l'objectif devient même insoutenable. Cette progression permanente devient même utopique. Assez vite, son corps va s'épuiser et au lieu de progresser, ses performances vont diminuer en raison évidemment de la fatigue accumulée, du stress, des blessures, etc. Eh bien, les conséquences de cette croissance utopique pour le sportif peuvent également s'appliquer à notre modèle économique actuel qui a entraîné le pillage systématique des ressources naturelles de notre planète. Le pétrole, le charbon, le gaz, les minerais, les forêts, sans compter l'épuisement des terres et les pollutions en tout genre. Pour le pétrole, par exemple, en seulement 150 ans, l'humanité a consommé la moitié des ressources mondiales qui avaient mis 350 millions d'années à se créer. Et c'est la même chose pour toutes les ressources terrestres. Cette année, le 2 août 2023, l'humanité avait consommé l'ensemble des ressources que la Terre peut reconstituer en une année. Alors, entre le credo illusoire d'une croissance perpétuelle et celui plus radical de la décroissance, Mansour Khan, lui, propose une voie intermédiaire, celle de la sobriété. Cette troisième voie, c'est pour lui la seule solution soutenable pour assurer la survie de l'humanité en respectant les limites écosystémiques de la planète. Du point de vue particulier des énergies, Khan considère évidemment qu'on ne peut continuer comme ça avec les énergies fossiles et leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais il met également un bémol sur les énergies renouvelables comme solution pour garder la logique de croissance. Alors, Michel Bernard, c'est un point qui nous a surpris dans l'ouvrage de Mansour Khan, ce bémol qu'il met sur les énergies renouvelables. En effet, nous, on compte beaucoup sur les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, le biomasse, et Mansour Khan affirme que ces solutions sont un faux espoir. Comment doit-on interpréter cela ?
Pour fabriquer une éolienne, il faut des matériaux, et pour extraire les matériaux, il faut de l'énergie. Et en fait, il n'y a pas d'énergie sans matériaux, il n'y a pas de matériaux sans énergie. Et ce que montre Mansour Khan, c'est que quel que soit le mode énergie, production d'énergie qu'on a, que ça peut être une centrale nucléaire, une centrale thermique ou des énergies renouvelables, on consomme énormément d'énergie pour alimenter tout ce système. Et ce qu'il montre, c'est que pour fabriquer une éolienne, il faut du pétrole. Pour fabriquer un capteur solaire, il faut du pétrole. Et que si on n'a plus de pétrole, eh bien, on ne peut plus fabriquer d'éoliennes. C'est ça un des problèmes qui se pose. Enfin, ce n'est pas qu'on ne peut plus fabriquer des éoliennes, c'est qu'on ne pourra pas fabriquer autant d'éoliennes qu'il faut pour remplacer le pétrole. On peut en fabriquer un certain nombre, mais il y a un moment donné où ça va coincer. Et ça coince parce qu'on aura à la fois la pénurie d'énergie et à la fois pénurie de matériaux. Et la question qu'on pose, on est toujours en train de parler de transition énergétique et on oublie complètement la question des matériaux. Et il y a plein de matériaux actuellement qui sont déjà en tension, on va dire, sur les marchés internationaux.
Par exemple ?
Et le cuivre, le cadmium, tous les métaux rares, toutes les terres, ce qu'on appelle les terres rares et tout ça. Parce qu'il faut savoir que, quand vous prenez la table des éléments, il y en a je ne sais plus combien, 130, 140, Ça ne sert pas uniquement à faire des éoliennes, ça sert aussi à faire des téléphones, ça sert aussi à faire des voitures. Ça sert, à tous les matériaux servent à différents usages. Et c'est, alors il y a des théories sur l'économie circulaire, mais ça ne marche pas. L'économie circulaire, ça voudrait dire qu'une fois qu'on a fini d'utiliser son téléphone, on le rend au magasin et on refait autre chose avec. Mais l'utilisation de ces matériaux étant des mélanges, on mélange les matériaux entre eux de manière tellement compliquée que le recyclage demanderait tellement d'énergie qu'on ne le fait pas. Donc, de toute façon, ces matériaux se dispersent dans la nature, on va dire, dans les déchets. Et il arrive un moment où tout va se bloquer. C'est-à-dire que quand le pétrole va se bloquer, ce que dit Mansourkane, c'est que quand le pétrole se bloque, tout le reste se bloque aussi.
Mais pourtant, le pétrole, on en a encore plein. On en a encore moins pour 150 ans.
Et non, ça, c'est un faux calcul. C'est pas parce qu'on a consommé que la moitié du pétrole, mais on a consommé la moitié la plus facile. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, avec un litre de pétrole, on pouvait aller chercher 100 litres de pétrole dans le sol. Aujourd'hui, aujourd'hui, avec un litre de pétrole, on va chercher seulement 8 litres de pétrole dans le sol. Et quand on passe au gaz de schiste et tout ça, il faut un litre de pétrole pour aller chercher 2 litres de pétrole qu'on dit non conventionnel. Et ce que raconte Mansourkane, c'est qu'on a l'impression qu'on peut aller jusqu'à, avec un litre, on peut tirer un litre. Et là, on s'arrête. Mais en fait, on s'arrête bien avant, parce que comme il dit, il ne suffit pas de tirer le pétrole du sol. Après, il faut pouvoir l'emmener à la raffinerie, il faut pouvoir faire fonctionner la raffinerie. La raffinerie va charger des camions en citernes, les camions citernes vont aller à la pompe à essence va fournir la voiture, et tout ça, ça consomme du pétrole. Et en fait, lui, son calcul, il dit que quand on arrivera à 7 litres, quand on pourra tirer que 7 litres du sol avec un litre de pétrole, on sera plus rentable. Et donc, on en est à 8. Et ça diminue tous les jours. Donc, on arrive très, très près de la fin de la possibilité d'exploiter le pétrole.
Ça ne dépend pas un peu du prix auquel on va le vendre, ce pétrole ? Enfin, le pétrole transformé, bien sûr, parce qu'effectivement…
Au fur et à mesure que le pétrole est de plus en plus difficile, quand le pétrole devient rare, le prix monte. Et c'est la même chose pour l'électricité. L'année dernière, quand on a eu les centrales nucléaires qui étaient en panne en France, le prix de l'électricité au niveau européen a grimpé de manière spectaculaire. Une des raisons de la précarité… Une des raisons de la précarité énergétique des gens qui se chauffent, c'est qu'ils ont le chauffage électrique. Or, ce que prévoit le plan de sobriété du gouvernement, c'est que tout le monde se chauffe à l'électricité demain. Et l'électricité peut varier énormément, énormément. Le prix de l'électricité au niveau de la bourse d'échange au niveau européen, ça va de prix négatif jusqu'à 1000 fois le tarif, on va dire, habituel, selon les demandes. Donc, on essaye de moduler ça en fonction de la production, et de l'autre côté, on demande aux industriels de baisser leur consommation quand ils peuvent et tout, pour éviter les pointes financières. Et effectivement, dès qu'on va manquer de pétrole, le prix du pétrole va s'envoler énormément.
D'accord. Alors, la France, elle a privilégié depuis plusieurs dizaines d'années des formes de production d'énergie qui sont très centralisées, des centrales à gaz, charbon et des centrales nucléaires, évidemment. En 2022, on produisait 63% de l'électricité en France avec seulement les 18 centrales nucléaires, dont les réacteurs ont des puissances colossales. Pour Mansourkane, on devrait privilégier une production d'énergie plus locale. Selon vous, Michel Bernard, en quoi cet aspect local est important et quelles en sont les limites ?
Alors, l'intérêt de faire de la réflexion sur l'énergie au niveau local, c'est qu'on voit mieux quels sont les besoins spécifiques. On peut partir des besoins des gens. Actuellement, la stratégie du gouvernement, c'est de partir de nos modes de production. Et à partir de là, on impulse les gens à leur dire « il va falloir consommer telle ou telle chose ». C'est, par exemple, quand le gouvernement vous dit « demain, vous allez avoir des voitures électriques à la place des voitures à essence », c'est le choix du gouvernement, ce n'est pas le choix des consommateurs. Alors que si on part au niveau local, on va dire niveau communauté de communes par exemple, à ce moment-là, il est possible de faire des diagnostics, d'enquêter plus facilement sur ce que les gens veulent, et on peut discerner aussi à quel moment se font les consommations, à quel moment, quel type de consommation se fait, et on peut aussi voir plus facilement là où est-ce qu'on gaspille et là où est-ce qu'on peut améliorer les économies d'énergie. Donc là, c'est par exemple au Danemark où c'est très décentralisé. Quand c'est pris en charge par les communautés de communes, on arrive à descendre les consommations de manière spectaculaire. Et c'est ça la vraie sobriété, c'est de descendre la consommation, c'est pas de changer de technique ou de rajouter des éoliennes. Parce qu'en France, on rajoute des éoliennes, on rajoute des capteurs solaires, mais on continue à faire tourner des centrales nucléaires. Donc il y a un problème, c'est qu'on produit de plus en plus d'électricité alors que la consommation globalement ne monte pas. Donc, j'ai demandé un jour à un ingénieur, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette électricité, puisque la consommation électrique en France est en baisse depuis maintenant 10 ans. Et de l'autre côté, on nous annonce chaque année qu'il y a quelques milliers de mégawatts qui s'installent en éolien, en solaire et tout ça. Et la réponse, c'est on fait tourner les installations de moins en moins souvent. C'est-à-dire qu'on arrête les centrales au gaz, ça c'est très bien, mais on arrête aussi les éoliennes à un certain moment, parce qu'on ne sait plus quoi faire de l'électricité. On essaie de la vendre au niveau européen, mais c'est pareil, les Allemands, ils produisent énormément, je ne sais plus quel est le chiffre, mais c'est l'équivalent de plusieurs centrales nucléaires par an, ils installent en éoliennes, et tout ça fait que, c'est les réflexions au niveau national. Alors, au niveau local, on peut réfléchir de manière différente. Je me souviens que quand il y a eu un écologiste qui est rentré à la mairie de Grenoble, c'était avant qu'il y ait le maire écolo, c'était Vincent Fristeau. Il est rentré, il s'est occupé de la gestion de l'eau de la ville. En 6 ans, il a fait baisser de 90% la consommation de ce que la commune, les bâtiments municipaux consommaient, 96%. Et au Danemark, là, il y a eu des exemples où c'était 30-40% d'économie d'énergie parce que la réflexion se venait au niveau local. Parce que le local, ça permet de dire, on a besoin d'électricité à ce moment-là, on a besoin de chaleur à ce moment-là, et la chaleur, ça ne passe pas forcément par l'électricité, contrairement à ce que nous dit le gouvernement français.
Donc on a à la fois, on a à la fois un problème de surconsommation, un problème aussi de surproduction par moment.
Oui, on est en surproduction, sauf quand on a 20 centrales nucléaires qui tombent en panne en même temps, évidemment. Ce qui est le risque qu'on a eu l'année dernière, l'hiver dernier. On avait un défaut qui était apparu sur une centrale, et on s'est aperçu qu'il était sur toutes les centrales. Donc, ils ont été obligés de pratiquement toutes les centrales ont été arrêtées. Et là, effectivement, on s'est retrouvé en déficit d'électricité, mais ce n'est pas le cas en général. Et en plus, le scénario, comme on a entendu un peu dans les annonces, où la sobriété, ça serait de produire plus avec moins d'énergie, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas déconnecter tellement l'énergie pour faire des choses, il faut une certaine quantité d'énergie. Alors, il y a l'efficacité énergétique qui progresse, mais qui progresse assez lentement. Et on peut pas dire qu'on va continuer à faire de la croissance et en même temps de la sobriété. C'est absolument antagoniste. C'est pas possible.
D'accord.
Alors, vous avez dit que Mansour Khan ne parlait pas de décroissance, mais de sobriété. Personnellement, pour moi, je pense que c'est la même chose. Mais bon.
Quand on parle de sobriété, notamment de sobriété énergétique, on peut penser aussi au scénario Négawatt. Le groupe Négawatt travaille en faveur d'une transition énergétique réaliste et soutenable pour la France. Il a proposé en 2022 un scénario qui répond aux objectifs de développement durable de l'ONU et en particulier la neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que ce scénario Négawatt avec notamment ces trois aspects, justement sobriété, efficacité, énergie renouvelable ? Pensez-vous que ce scénario est réalisable pour tous et à quelles conditions ?
Alors, Négawatt, c'est une association qui regroupe des ingénieurs de différents secteurs de l'énergie et beaucoup de gens qui viennent de renouvelables, mais pas que. Il y a aussi des gens qui viennent du nucléaire, d'ailleurs, mais qui ont un esprit critique, on va dire, sur les grandes centrales. Et donc, effectivement, le scénario Négawatt, c'est en gros, on fait un tiers d'économie d'énergie. On descend notre consommation encore d'un deuxième tiers avec l'efficacité énergétique. Et après, je vous dirai comment ils font. Et puis, le troisième tiers, on fait une production par les énergies renouvelables. Et à ce moment-là, si on pense au tiers d'énergie renouvelable, donc comme on a dit tout à l'heure, les centrales nucléaires font beaucoup de choses, mais on a quand même 16% de notre électricité qui provient d'hydraulique. Donc, on a déjà une bonne partie de notre… Et après, on a quelques pourcents pour les éoliennes et les solaires. Ça veut dire que si on descendait à un tiers de notre consommation d'énergie aujourd'hui, on aurait déjà bien avancé sur le domaine des renouvelables. On n'aurait pas besoin d'en faire énormément en plus. En plus, quand on parle… Il y a une confusion entre énergie et électricité. C'est-à-dire que la question de l'électricité est relativement facile à résoudre. On sait en faire avec des éoliennes, effectivement, avec des barrages et avec des capteurs solaires. Par contre, remplacer l'essence dans les voitures, c'est plus compliqué. Et on a aussi besoin de chaleur. Et la chaleur, c'est pas… Faire de la chaleur et de l'électricité, c'est un gaspillage monstre. Donc, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut faire des capteurs thermiques, il faut faire autre chose. Donc, la partie énergie renouvelable, techniquement, elle est au point. La partie efficacité énergétique, dans le scénario Négawatt, on prend le meilleur frigo qui existe sur le marché actuellement, et on en fait la norme. C'est-à-dire que les fabricants de frigos n'ont plus le droit de fabriquer des frigos qui consomment plus que ce meilleur frigo actuel. C'est-à-dire qu'on n'invente rien puisqu'on a déjà, on l'a déjà ce frigo. Simplement, il n'y a que 2% de la population qui l'a acheté, les autres, ils ont acheté des frigos qui consomment plus. Donc on va remplacer progressivement par des frigos de plus en plus économes.
Donc finalement, on a un problème qui n'est... Excusez-moi, je vous interromps un petit peu, mais vos réflexions me font penser au fait qu'on fait peser beaucoup de choses parfois sur le consommateur et peut-être pas suffisamment sur le producteur. Parce que les producteurs de frigos, si on leur met la norme du frigo le plus économe, quelque part, on résout une partie du problème.
Bien sûr, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est déjà ce qui se fait actuellement avec le classement, vous savez, qui est marqué A, B, C, D, A+, etc. Les frigos, maintenant, ils sont à A3+, parce qu'ils sont obligés, ils ont été obligés de rechanger l'échelle parce qu'on progresse. Et ça, c'est des normes. De la même manière que pour les voitures, on pourrait dire, aujourd'hui, le gouvernement commence à en parler, on va limiter le poids des voitures et puis on va limiter leur consommation. Donc, ça sera interdit de faire des voitures qui consomment plus de temps. Et puis, les fabricants ont 5 années pour changer leur chaîne de fabrication et arriver à ce seuil. Une fois qu'ils sont à ce seuil, on leur dit, dans 10 ans, il faudra que vous descendiez à tel niveau. Et c'est comme ça qu'on joue sur l'efficacité énergétique. Et effectivement, cette efficacité énergétique, on ne peut pas la descendre à volonté. Il faut quand même que la technologie suive. Et donc, le scénario négawatt s'appuie que sur des choses qui existent déjà. Donc, tout ce qui est dit dans le scénario négawatt est applicable tout de suite.
Oui,
et la troisième partie, c'est le développement des renouvelables. Donc, on a dit, les économies d'énergie, c'est moins consommer. Efficacité énergétique, c'est consommer, mais ce qu'il y a de mieux, de plus économe sur le marché. Et la production d'énergie renouvelable, eh bien, c'est se passer des grosses centrales thermiques ou nucléaires. Au départ, la volonté de Negawatt, c'était de sortir du nucléaire. Ensuite, ils ont intégré la question du CO2. Et ils ont également changé leur scénario parce qu'ils ont également fait un volet sur l'emploi pour essayer de voir ce que ça donnait au niveau de l'emploi. Donc, c'est un scénario qui évolue maintenant depuis, je dirais, 20 à 30 ans. Je ne sais plus combien, quand est-ce qu'ils ont commencé, mais c'est il y a très longtemps. Ce scénario, par contre, on l'a quand même critiqué dans la revue Silence parce qu'il part sur l'idée que le niveau de vie que nous avons actuellement, il est soutenable pour... Si on résolvait le problème énergétique, les autres questions seraient résolues. Ce qui, à notre avis, est faux.
C'est-à-dire que c'est pas... un débat qui mériterait une émission particulière sur le scénario négawatt. On essaiera d'organiser ça.
Vous pouvez le faire très facilement, puisque le vice-président de négawatt, il est bien, c'est le directeur de ESPUL. Hein.
Très bien.
Donc,
merci.
On va donner le contact après, si vous voulez.
Merci, on organisera ça. Alors, j'avais une dernière question. On entend souvent des critiques au sujet des petits gestes éco-responsables du quotidien. C'est inutile, c'est trop tard. On en entend un peu toutes sortes. Hein. Pourquoi me déplacer à vélo alors que tout le monde prend sa voiture? On n'a pas les moyens de changer et de manger sain et bio, etc. Comment on fait pour donner envie aux gens d'aller vers plus de sobriété? Et surtout, comment on fait pour que ce soit ceux qui ont le plus de moyens, c'est-à-dire finalement les plus riches, qui sont aussi les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, pour que ce soit eux qui évoluent le plus vite?
Oui. Alors, la place des petits gestes, c'est qu'il faut prendre conscience qu'on est dans un système politique collectif. Et que nous, comme on dit, quand une personne gagne 100 euros de salaire, il y en a 50 qu'elle va dépenser elle, et il y en a 50 qui vont être dépensés par les collectivités parce que, à cause des prélèvements des impôts et tout ça. Donc, en gros, les collectivités dépensent la moitié du budget et les particuliers la moitié de leur budget. Donc, quand vous faites des démarches économiques, quand vous faites des démarches individuelles, vous pouvez échanger la première moitié, mais pas la deuxième. Donc, la deuxième, ça passe par les choix politiques, ça passe par les implications dans les associations comme Alternativa et des choses comme ça.
Très bien.
Ça, c'est la première chose comme ça. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on touche les plus riches? Eh bien, si on dit que demain, les voitures ne doivent pas peser plus de 1,5 tonne, on supprime tous les SUV, les SUV,
oui.
les grosses voitures. Et les grosses voitures, c'est les riches qui les achètent.
Oui, c'est pas
les pauvres, voilà, les pauvres, ils vont acheter des voitures. Actuellement, une des voitures les plus légères, c'est la Twingo, qui doit faire 1,2 tonne. Mais on sait, il faut se souvenir que la 2 chevaux, à l'origine, faisait 400 kilos. Donc, on a encore de la marge de progression pour redescendre jusqu'à 400 kilos. Et pourquoi les voitures de 400 kilos ne circulent pas actuellement, ou pourquoi les gens ont peur de faire du vélo? C'est que quand vous vous faites renverser par un SUV qui fait 2,5 tonnes, vous avez peu de chances de survivre. Donc, si on supprime les voitures les plus grosses progressivement, eh bien, à la fin, on va arriver comme ça. Si on fait un crédit carbone pour l'avion, on va pénaliser effectivement les riches, on ne va pas pénaliser les pauvres, parce que la plupart des gens, la plupart des gens ne prennent pas l'avion. Bien. Enfin, bon, donc il faut raisonner, non pas en termes de... Le gouvernement, actuellement, leur idée, c'est de mettre des taxes. Les riches peuvent payer les taxes, et les pauvres ne peuvent pas les payer. Donc la solution, ce n'est pas de mettre des taxes, c'est de mettre des restrictions. C'est comme on a dit, il faut descendre avec les normes, il faut descendre en disant ça, maintenant c'est interdit, ça c'est interdit. Et comme ça, c'est les riches qui sont obligés de se restreindre et pas les pauvres.
Merci beaucoup Michel Bernard pour cette discussion très riche autour de ce livre de Mansour Khan. On pourrait encore aller beaucoup plus loin. En conclusion, j'ai envie de dire qu'il nous faut vraiment réfléchir à des modes de vie soutenables, c'est-à-dire où l'on consomme moins que ce que la nature est capable de produire. Il nous faut tendre vers une société plus sobre. Et Mansour Khan, lui, il écrit ça. Il écrit qu'il faut que le maximum de gens soient conscients de l'impossibilité de perpétuer une croissance sans fin. Sinon, c'est ce paradigme qui va continuer à s'imposer. Et finalement, les gouvernements, vous en parliez, les gouvernements n'agiront que si une certaine masse critique est atteinte.
Are you already anxious? I know I am. How are we gonna save this? Because we have to. Let's get up, let's pretend that the floor is made of lava. Count how long we can spend in the air, floating above it. I know you've heard me say this. I hope it moves you and that it is contagious. To move like you do, step with the mood and cadence. Just like we used to, let's shake it for the ages. Let's get up, let's pretend that the floor is made of lava. Count how long we can spend in the air, floating above it. No matter where we land, as long as we're holding hands. No matter where we go, as long as we're moving. Let's get up, let's pretend that the floor is made of lava. Count how long we can spend in the air, floating above it. Let's get up, let's pretend that the floor is made of lava. Count how long we can spend.
C'était Let's Pretend de Decker. Nous sommes toujours sur Radio Calade dans l'émission d'Alternativa Alors on change et nous poursuivons notre émission consacrée ce soir à la sobriété en accueillant maintenant en studio Philippe Serre, directeur général des services de la communauté des communes Saône-Beaujolais. Philippe, sur la communauté de communes Saône-Beaujolais, vous avez lancé le service BoWatt, une solution locale d'énergie renouvelable. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques minutes?
Bien sûr. BoWatt, c'est plus qu'un service, c'est une marque d'électricité. Et c'est effectivement une marque d'électricité locale, verte. Et pourquoi c'est important par rapport à ce qu'on vient d'entendre et ce qu'évoquait Michel Bernard en termes de relocalisation en fait, de cette question d'énergie? C'est qu'on a fait le constat que... On avait besoin, pour aller dans un monde fini, vers des solutions qui soient durables et justes, de solutions locales et de réappropriation en fait, publique et citoyenne locale de la question énergétique. Or, même s'il y a beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes autour des questions d'énergie, que ce soit d'ailleurs sur le développement du renouvelable de manière générale ou sur les questions de sobriété et un peu moins malheureusement d'efficacité, on ne permet pas en fait aux habitants de s'impliquer dans cette question-là. Alors bien sûr, il y a des associations comme vous qui font ce travail-là, mais on s'aperçoit qu'on passe à côté d'une grande partie de la population. Et qu'est-ce qui réunit tous les consommateurs en matière d'énergie, c'est qu'ils ont tous un contrat d'électricité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer la manière de rentrer en fait, dans cette logique de communauté énergétique, il faut changer cette manière de s'impliquer, et il faut permettre aux habitants de réellement reprendre le pouvoir en fait, sur leur consommation. Donc c'est ça, BoWatt. C'est une grande ambition, et c'est une ambition qui n'est pas commune, parce que effectivement, comme on le disait, on a une tradition française qui est très très centralisée, qui était aussi une tradition monopolistique avec EDF, et qui fait que les questions énergétiques en fait ont été éloignées des territoires, donc des communautés de communes, des communes, des départements, mais aussi des habitants eux-mêmes.
D'accord. Ça va alimenter combien de foyers le projet BoWatt ?
Alors le projet BoWatt pourrait alimenter théoriquement les 24 000 foyers de la communauté de communes. Et ça serait merveilleux que ça soit le cas, mais dans un premier temps, l'idée c'est qu'il y ait au moins 500 à 1000 foyers en 2024 qui puissent rentrer dans cette communauté énergétique, ce qui leur permet effectivement de consommer de l'énergie verte à un coût extrêmement maîtrisé, de l'énergie verte locale très prochainement, mais aussi, et parce que c'est important par rapport au débat qu'on a ce soir, c'est d'avoir des moyens de reprendre en fait la main sur leur consommation d'énergie. On parlait de sobriété tout à l'heure. On sait qu'en faisant un certain nombre d'efforts d'usage, on peut réduire sa consommation d'énergie de 10 à 23% assez facilement, entre guillemets. Sauf que pour le faire, il faut qu'on permette aux gens de savoir ce qu'ils consomment, de savoir quand est-ce qu'ils consomment et qu'ils puissent réellement s'emparer de cette question-là. Pour faire ça, tous les abonnés de BoWatt, on leur offre en fait des outils, un outil notamment, un compteur en fait, qui leur permet de voir en temps réel combien ils consomment exactement. C'est une des promesses qui avait été faite lors de l'installation des compteurs Linky, peut-être vous vous rappelez. Le compteur Linky, on avait dit, ça vous permettra de faire des économies. Personne en France n'a fait d'économies avec le compteur Linky, parce qu'en réalité, on vous dit, vous pouvez voir votre consommation en temps réel, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez voir votre consommation le lendemain ou le surlendemain par pas de temps d'une heure. Avec ça, vous ne ferez jamais d'économies. Il faut que les usagers, les habitants, puissent voir en direct, immédiatement, dans la seconde, combien ils consomment. Et c'est ce que propose BoWatt. Et on a déjà des résultats, puisque les premiers abonnés, on commence à avoir déjà des données. Et on voit qu'on est autour de 15 à 20% d'économie d'énergie. Et entre guillemets, on parlait de sobriété facile ou heureuse. La vie des gens n'a pas changé. Hein. C'est juste une attention particulière liée à la connaissance. Et pour reprendre la main sur un sujet, il faut le connaître. Donc c'est l'enjeu de BoWatt et ça fonctionne. C'est pour ça que je disais que si 24 000 foyers de la communauté de communes étaient adhérents à BoWatt, et bien peut-être que ces foyers-là, tous ensemble, feraient 20% d'économie d'énergie.
D'accord. Et vous disiez énergie verte locale. Ce sont qui, en fait, les producteurs d'énergie ?
Alors, il y a cette marque qui a été installée, BoWatt, et parallèlement, on est en train de construire nos premières centrales photovoltaïques qui seront maîtrisées par la collectivité et par les habitants en partie. Ce qui est extrêmement important, même si l'enjeu des renouvelables n'est pas le premier enjeu de la transition écologique, parce que effectivement, c'est pas la solution à tout, et c'est pas la solution pour dire il n'y a pas de problème, c'est renouvelable, donc continuons à développer l'économie comme elle se développe aujourd'hui ou la consommation. Mais néanmoins, on a besoin dans un système de réappropriation aussi de maîtriser la production. Ce qui va rester de production, il faut qu'on le maîtrise. Donc on est en train de construire des centrales photovoltaïques sur le territoire qui seront maîtrisées par la collectivité, où il y aura aussi dans l'économie de l'énergie une répartition de la richesse qui profitera aux habitants et aux acteurs locaux. Voilà, on ne laissera pas échapper non plus la richesse produite pour de la spéculation des dividendes ou des marchés. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et ça nous permet aussi, sur le moyen long terme, d'avoir des clés et des outils pour amortir, ou en tout cas pour maîtriser ce que sera la production d'électricité et son coût à moyen et long terme.
Et alors, ce sont quoi aujourd'hui les principales difficultés que vous rencontrez? Quels freins?
Des freins, ils sont. Alors, il y a plusieurs freins. Il y a des freins réglementaires, administratifs, concrets. Bon, ça, on connaît bien dans notre pays, mais c'est des freins quand même extrêmement importants. Et je crois. J'allais dire, c'est pas forcément le principal frein. Quand une collectivité comme la nôtre décide un peu de renverser la table et de dire maintenant, il y a d'autres modèles possibles. Eh bien, les questions administratives et réglementaires, on les surmonte. Voilà, en tout cas, on est là pour ça et c'est notre métier. Par contre, la question, elle est plutôt culturelle. Et moi, je suis étonné que, en fait, cette initiative-là, aujourd'hui, elle laisse sceptique un certain nombre de personnes, d'habitants, de décideurs, etc., en disant, mais pourquoi une collectivité s'occupe de ça? C'est pas notre boulot. Oui, mais ce n'est pas notre boulot. Mais du coup, quand on parle d'intérêt général local, si on ne commence pas à parler des communs, on parle de l'eau, on parle de l'alimentation, on parle du logement, on parle des mobilités, mais du coup, on n'aurait pas le droit de parler d'énergie. Ah non, ça, ce n'est pas notre boulot. Oh là là, c'est loin, il faut laisser faire l'État, puisque l'État fait, et on l'a constaté, a très très bien fait ces dernières décennies. C'était un vrai succès. Et voilà. Donc moi,
je sens un peu d'ironie.
Il y a un peu d'ironie, je l'assume. Nous, on refuse cette logique-là. Et c'est vrai que, du coup, ce frein culturel, hein, mais qui est un frein presque civilisationnel, qui est lié au débat qu'on évoquait avant sur la question de la sobriété, il est urgent de trouver d'autres modèles. Et nous, localement, aux communautés de communes ou des communes, les seuls modèles qu'on peut essayer de trouver, c'est des modèles locaux. Or, il se trouve que la relocalisation des communs et globalement des modèles économiques ou de développement, c'est une des solutions à la transition écologique en général. Voilà, c'est une des bonnes solutions et c'est des solutions aussi qui permettent une implication citoyenne qui soit réelle. Voilà, c'est parce que voilà, on va laisser l'État faire, on va laisser le marché faire, on va laisser l'Europe faire, et puis bon, puis voilà. Mais en fait, tout ça, ça ne marche pas. Pour le monde, hein, pour l'avenir de l'humanité, pas employons des grands mots, mais pour l'avenir de l'humanité, ça ne marche pas. Donc ça nous envoie dans le mur. Et ceux qui paraissent tout à fait raisonnables et j'allais dire bien, bien beaux, bien peignés et bien habillés à la télé,
sont sérieux,
et ceux qu'on dit sérieux, sont les moins sérieux. C'est ceux qui envoient le monde au désastre. Et donc voilà, il faut absolument qu'on trouve d'autres modèles. Et ce qu'on propose avec Beauwatt, mais avec un certain nombre d'autres politiques, c'est de chercher des modèles, d'essayer des modèles et aussi de les dupliquer ailleurs. Voilà.
D'ailleurs, votre dernière intervention me fait venir une nouvelle question. Les dupliquer ailleurs, vous avez des contacts avec d'autres communautés? Alors, vous vous êtes inspiré de ce qui se faisait déjà ailleurs ou vous êtes les premiers avec ce type d'initiative comme Beauwatt? Et est-ce que vous avez déjà l'idée de la proposer à d'autres communautés de communes? On pense particulièrement à la nôtre, Villefranche.
Ah oui, qui est une communauté de communes voisine. Alors, on s'est inspiré, en fait, ce modèle de marque locale, il a eu une autre expérience avant la communauté de communes Saône-Beaujolais, et c'était la collectivité dans laquelle j'étais avant, puisque c'était un premier test que j'avais développé, qui ne s'est pas poursuivi de manière efficace, parce que ce n'était pas une volonté politique de la nouvelle municipalité. Donc, c'est le premier vrai test aujourd'hui de marque et de boucle locale. Et oui, on essaye d'essaimer. Moi, je passe beaucoup de mon temps dans des colloques à Toulon, à Saint-Malo, je vais en Orisère prochainement, la semaine prochaine, à Lyon aussi la semaine prochaine, pour essayer de discuter et aussi, alors, expliquer ce qu'on fait, mais aussi sensibiliser, ce qui est absolument essentiel, les cadres territoriaux et les élus locaux à cette question-là, en disant il ne faut pas que vous vous résigniez. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut se résigner. Si vous vous résignez, si vous dites ça, on ne peut rien y faire, On a tout perdu. Oui, ça va être compliqué. Oui, il va y avoir des moments où on va avoir des désillusions. C'est inévitable. Mais il faut essayer, il faut construire. Et j'allais dire, comme je le dis souvent aux territoires dans lesquels je vais, En fait, vous avez une chance, c'est qu'il y en a qui testent avant vous. Et ça, c'est une chance extraordinaire, parce que quand on est pionnier, alors c'est très intéressant, mais c'est aussi très fatigant. Fatigant au sens voilà, énergivore du terme, et puis au sens où on est parfois incompris. Et là, je sens que ça intéresse. Ça intéresse vraiment. Et donc, il y a quelque chose qui avance. Dans le Bas-Rhin, j'étais la semaine dernière dans le Bas-Rhin aussi pour parler de ça, sur un pôle territorial qui a envie de développer aussi sa marque locale. Donc c'est extrêmement intéressant. Et en local, les initiatives sont plus connues, on en discute un peu plus souvent, mais peut-être qu'un jour, effectivement, Beauwatt s'étendra ailleurs que la communauté de communes de Beaujolais. C'est ce que je souhaite, en tout cas.
Oui, c'est très encourageant ce que vous racontez là, cet essaimage potentiel au niveau des communautés de communes, la main qu'on peut avoir pour faire changer les choses au niveau local. Est-ce que concrètement, au niveau de la communauté de communes de Belleville, vous avez d'autres initiatives, peut-être en matière de transport, par exemple, qui tendent vers cette sobriété, vers cette...
Oui, alors c'est vrai que la question des mobilités en milieu rural, puisque nous, notre communauté de communes est principalement rurale, c'est un enjeu qui est extrêmement fort parce qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions adaptées pour faire sortir les gens d'autosolisme, qui est une charge pour eux, pour les ménages, et qui est une charge pour la société et puis pour le climat. Donc il y a un certain nombre de plans, alors des plans vélo, aussi un certain nombre de choses autour des transports en commun qu'on fait avec le Citral, et ça se développe plutôt correctement. On va lancer là en 2024 un certain nombre de choses autour de l'autopartage et puis du covoiturage. Le covoiturage en milieu rural est une des pistes intéressantes. Et puis, il faut aussi transformer nos modèles de travail. On le fait, nous, pour nos agents de la communauté de communes. Hein, la possibilité de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine, ben c'est 2 allers-retours de moins par semaine, pour être très concret. Hein. Alors, ça pose d'autres questions, hein, je sais bien, mais c'est extrêmement concret. On a aussi un plan alimentaire territorial pour relocaliser les questions alimentaires, parce que c'est aussi quelque chose d'essentiel, la question alimentaire et la question des circuits courts alimentaires, et aussi de la transition vers une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Ou encore, un projet dont vous entendrez sans doute parler, là aussi un peu pionnier, c'est que Belleville-en-Beaujolais souhaite être la première ville bioclimatique et positive en 2035. Donc c'est un travail immense, parce que dire qu'on est une ville bioclimatique et positive, donc à énergie positive dès 2035, c'est colossal, mais ça veut dire tout changer. Nos modes de construction, la question des filières de construction et de matériaux, ça veut dire aussi la question de la gestion de l'eau, de la désimperméabilisation, de l'empreinte carbone, vue comme la lutte contre en fait l'effet empreinte carbone sur tous les aspects des travaux publics, mais aussi du développement urbain, la question de la sobriété foncière. Enfin, il y a là ça mériterait aussi
une autre mission.
Voilà. Mais la question d'aujourd'hui construire des villes durables, mais vraiment durables, où on puisse réconcilier aussi l'humain et la nature, parce que la nature, elle nous a rien demandé. On lui a pris, on lui prend encore, la nature a été sortie des villes, la biodiversité a été sortie des villes, et aujourd'hui les petits retours en arrière sont souvent anecdotiques. Or, il faut le faire de manière massive. La nature, elle a besoin de se réarrimer à l'homme et à l'humain, et l'humain a besoin de revoir son modèle. Il n'est pas un conquérant qui peut tout dévaster pour son propre profit. Il y a un moment, il y a une limite. La Terre est finie et les limites planétaires sont maintenant largement dépassées.
Merci. Et alors, une dernière question qui nous tient particulièrement à cœur chez Alternativa, c'est la question de la justice sociale. Comment vous faites pour toucher les différents groupes sociaux de manière différenciée? C'est-à-dire, comment inciter les plus riches à agir? Comment aider les plus pauvres pour qu'ils puissent, je sais pas, rénover leur logement, changer leur mode de transport, etc.?
Alors, c'est vrai que c'est une question essentielle, parce que il y a les questions de violence en fait environnementale sont corrélées de manière complètement automatique avec la question des injustices et des violences sociales. De manière automatique. Quand on prend ça dans un quartier, dans une ville, dans un pays et dans le monde entier, c'est toujours les plus pauvres qui sont les premières victimes des violences environnementales. Et pourtant, c'est ceux qui ont le moins les moyens et parfois les informations ou les apports culturels pour lutter contre ça. Donc, en matière locale, en matière de collectivité, il faut absolument qu'on sache qu'il va falloir aider beaucoup plus les gens les plus précaires et les plus pauvres. Ça passe par, sur les questions d'aide au logement, par des aides qui sont bien, bien plus importantes pour rénover le logement quand les personnes sont modestes. Ça passe par des gratuités sur un certain nombre de choses, notamment des solutions de mobilité qui puissent être gratuites pour les plus pauvres. Ça passe aussi, je parlais d'alimentation, sur peut-être des nouveaux modèles solidaires qui se sont créés ici ou là, sociales et solidaires, pour permettre une alimentation saine et qualitative aux plus précaires, aux plus pauvres, financés par ceux qui auront les moyens de le financer, etc. Donc il y a beaucoup de modèles dans la ville bioclimatique, justement, qu'on invente, parce qu'une ville bioclimatique, c'est pas technique, hein, c'est pas que des questions de travaux, c'est aussi une ville du vivre ensemble et c'est une ville de la justice sociale. Et aujourd'hui, les fractures sont, on le sait, dans notre société, sont extrêmement importantes. Les violences environnementales rajoutent aux fractures. Et le jour où il faut se serrer les coudes, en fait, pour résoudre le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus du tout envie de se serrer les coudes, parce que les fractures ont été trop importantes, parce que les ruptures et les humiliations, y compris sociales, ont été trop importantes. Donc là, il faut réparer tout ça, et les collectivités ont un grand rôle à jouer, et les associations aussi ont un grand rôle à jouer.
Merci beaucoup, Philippe. Merci à nos deux invités. Si vous souhaitez approfondir, on ne peut que vous conseiller vivement la lecture de l'ouvrage de Mansour Khan, La voie de la sobriété, que vous pouvez facilement commander auprès de nos super libraires indépendants de Villefranche. Et vous pouvez aussi vous abonner, évidemment, à la revue Silence, qu'on a citée en début d'émission, qui traite régulièrement de ce sujet. Vous trouverez tout ça sur la page de l'émission, sur le site internet de Radio Calade, tous les liens utiles et aussi d'autres références d'ouvrages sur ce sujet de la sobriété.
Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco oco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais, uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói.
Respeitar a floresta.
Respeitar a floresta.
Respeitar a floresta.
Que o coração não destrói.
Respeitar a floresta.
É plantar a floresta. Que o coração não destrói.
100.9
Calade.
Alors, vous avez entendu Re Floresta, une chanson militante du légendaire Gilberto Gil, qui a pour thème le reboisement de l'Amazonie, la sauvegarde des espèces. Et tout de suite, en studio, à mes côtés, celui que vous attendez toutes et tous avec impatience, Bernard et sa célèbre chronique, La Calade Verte.
Merci Vincent et bonsoir à toutes et à tous. Bon allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et là, je vous préviens, ça va partir très fort, parce qu'une nouvelle fois, l'actualité s'emballe et ce qu'elle nous raconte, c'est vraiment pas de la malle. Encore faut-il aller chercher la vraie info, faire le tri, séparer ce qui est vrai et ce qui est faux, traquer les fake news tellement nauséabondes qui polluent nos journaux, nos écrans et nos ondes, garder l'œil aiguisé, fuir les médias mainstream, porter notre attention sur celles et ceux qui triment pour une information juste et indépendante, même si elle déplaît aux gens du CAC 40. Alors, écoutez-nous le prochain mois de janvier. On traitera le sujet vraiment dans son entier, car pour notre première de l'an 2024, comme d'habitude pour vous, on se mettra en quatre. Mais revenons à nos actualités récentes. Parmi elles, il y en a une qui est vraiment brûlante, celle de la COP28 commencée récemment. Une belle imposture, un événement dément, une conférence climat au pays du pétrole. Un an après le foot, c'est de moins en moins drôle. Le sultan de Dubaï veut faire verdir son image alors que son empire repose sur un carnage responsable avéré du chaos climatique. Et qu'on le laisse faire, c'est vraiment dramatique. Faut-il encore subir tous les renoncements, toutes les hypocrisies et tous les boniments de ceux qui se prétendent être les grands de ce monde, alors que la planète est presque moribonde ? Chez nous en France, va-t-on encore subir longtemps l'insupportable discours de notre président, félicitant, et ce, sans égard pour l'éthique, l'argentin Milei en climato-sceptique, nouvellement élu comme chef de l'État ? Il n'y a vraiment pas de quoi en faire une fiesta. Ceci n'étant d'ailleurs qu'une énième duperie, faisant de ce quinquennat une vraie trumperie. Et que dire d'ici chez nous en Beaujolais ? Il n'y a que deux mots qui comptent. Bouffer et picoler. Mais dès qu'on parle climat, il n'y a vraiment plus personne. Voilà des perspectives pas vraiment folichonnes. Là aussi, comme ailleurs, on sauve les apparences. On fait croire qu'on agit, qu'on est dans la mouvance de celles et ceux qui luttent pour un monde vertueux. La démarche est biaisée, limite du frauduleux. Nos élus sont experts dans l'art de la parole, mais pour agir, ils sont à côté de leur groll, totalement englués dans des pratiques hors d'âge, l'œil figé sur leurs vignes et sur leurs paysages. En 2020, ils ont voté un plan climat, certes peu ambitieux, vraiment à minima, mais enfin il existe, il faut s'en contenter. Sauf que presque 4 ans, c'est long pour patienter, car on ne voit pas long rudiment d'une vraie mise en route, d'un vrai commencement, d'une mise en œuvre solide, fruit d'une politique affrontant franchement la crise climatique. Non, ici, on ne voit que d'éparses mesures, pas de vision globale, ni projet d'envergure, tout au plus des gadgets, des écrans de fumée, pour mieux nous endormir, pour mieux nous enfumer. Le développement reste le maître mot, même si ça reste la source de tous nos maux. Tout se passe comme s'il marchait à l'envers, nous ramenant tout droit vers hier ou avant-hier. Et la concertation avec les habitants, des fois ils l'ont promise, 10 fois que l'on attend. Oui, mais pendant ce temps, la planète, elle souffre. Que dis-je, elle souffre ? Elle est au bord du gouffre. Mesdames, messieurs, élus de Calade et d'ailleurs, on vous le répète encore, au risque d'être chieurs, nous allons dans le mur, il faut changer de braquet, jeter vite aux orties vos pratiques étriquées, ouvrez enfin les yeux, il y a un virage à prendre. Mais faites-le très vite, on ne peut plus attendre. Nos enfants et les vôtres vous en remercieront, mais si vous ne le faites pas, ils vous accuseront. Petite devinette pour détendre l'atmosphère. Après ces tristes nouvelles, c'est le moins qu'on puisse faire. Dubaï et Villefranche sont-elles au même niveau entre 1001 nuits et Beaujolais nouveau ? Eh bien oui, chers amis d'Orient et de Calade, car chez chacune d'entre elles, on trouve Ché et Razade. Bon, allez, on s'en va. Merci pour votre écoute. Mais maintenant, il faut bien qu'on reprenne la route. Alors, bonne fin d'année et à l'année prochaine. Debout, déterminé, toujours libre et sans chaîne.
Merci Bernard, on a déjà hâte d'être à l'année prochaine et de te retrouver avec ta célèbre chronique. Alors je termine cette émission avec quelques rendez-vous en calade. Pour poursuivre sur ce thème de la sobriété, on peut se retrouver jeudi à 20h au cinéma Les 400 coups pour l'Alterna Ciné et avec la projection du film Low-Tech. C'est un film qui nous embarque dans le quotidien de femmes et d'hommes qui se battent pour démocratiser la low-tech, cette approche écologique concrète qui consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire simples, durables et accessibles à tous. Et je vous signale aussi la création d'un café tiers-lieu, participatif à Villefranche-sur-Saône, qui s'appelle le 15. Il a été inauguré samedi. C'est un lieu pour partager, échanger, réparer, rencontrer, apprendre. Vous y êtes tous les bienvenus. C'est au 15 route nationale 6 à Arnas. C'est juste à la sortie de Villefranche. Merci à toute l'équipe radio d'Alternatiba. Ce soir, le sujet a été préparé par Marion, Olivier et Pierre, complété musicalement par JC. Il y avait Bernard pour sa chronique que vous venez d'entendre. Alice était en studio à la technique. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission au cours de laquelle on viendra certainement parler de la presse indépendante. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Calade et nous laisser un message sur les réseaux. Très bonne semaine à toutes et à tous.
Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.